France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Burger, hot dog, bao, sandwich, donut, shawarma, ramen, fricassé, falafel, taco, arancini, gaufre, banh mi, churro. Tous ces plats, et la liste est loin d'être exhaustive, ont pour point commun d'être de la cuisine de rue, de la street food en bon français contemporain. Dans un livre aussi vivant qu'encyclopédique, Marcel Ratafiar retrace l'histoire, les origines et les usages actuels de quelques-uns de ces plats emblématiques et populaires, de la galette saucisse bretonne au rouleau de printemps vietnamien en passant par la calentica algérienne. C'est un véritable voyage culinaire aussi passionnant que gourmand. Bonjour Marcel Ratafiar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Je suis ravie.
Vous êtes, en dehors d'être autrice de livres et en particulier de ce Culture Street Food, histoire et recettes de la cuisine de rue aux éditions Marabout, chroniqueuse culinaire pour divers médias et guides. On peut citer Ses meilleurs cons, c'est bon, on peut citer Time Out, on peut citer Le Fooding. Et Culture Street Food n'est pas votre premier ouvrage. Vous avez aussi écrit avant cela 150 drôles d'expressions de la cuisine.
Ou avec encore de
Parlons vin. Parlons bien. Et ce livre, le dernier en date, Culture Street Food, est préfacé par un jeune, il est encore jeune, cuisinier ultra talentueux, étoile montante de l'année 2023 selon le Time Mag, alors peut-être qu'il est maintenant étoile montée. Et il fait aussi de la street food, de la cuisine de rue, c'est Maurice Sacco. Bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, super content d'être là.
Maurice Sacco, chef du restaurant Mosuke, une étoile au guide Michelin s'il vous plaît, dans le 14e arrondissement de Paris, et de trois adresses Mosugo, nous allons en reparler puisque c'est le temple du poulet frit façon Sacco.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse regarder.
Oui, je prends un burger végétarien.
Un deuxième aussi.
Deux. C'est vendu.
Nous allons parler de bouffe maintenant, si j'ose dire, puisque c'est un mot qui est venu à la mode et qui est passé dans le langage courant.
Un aspect très très important de la ville en ce qui concerne la nourriture, c'est la street food, c'est la cuisine de la rue.
Moi j'aime bien, en plus j'aime bien que c'est un peu ce qui manque en France, qu'on emporte un peu des cultures culinaires différentes.
Ce n'est pas toujours très bon pour la santé, mais le food truck a de plus en plus d'adeptes. Manger dans la rue, au pied du camion, est même devenu tendance.
Il y a tous les styles. Et ça, c'est franchement génial, parce que ça veut dire que la bouffe, la bonne bouffe, vient aux proches des gens dans la rue. Cet univers où il se passe des choses, où on est inspiré.
Je pense que les barrières entre gastronomie et ce type de cuisine, ils sont partis, on fait ce qu'on veut.
Je trouverais assez bien qu'à un moment donné, quand même, les cuisiniers français s'intéressent à ce que pourrait être une street food française.
Un petit montage sonore réalisé par Camille Dati qui est avec nous aux manettes aujourd'hui. Et le dernier chef qui parlait, c'était Bertrand Grébeau, chef du Septime restaurant à Paris. Je trouverais assez bien que les chefs français s'intéressent à une street food française. Avec vous, Maurice Sacco, c'est le cas, non?
Ouais, un petit peu déjà.
Hein. D'une certaine façon.
Comment on s'est intéressé et comment on arrive à lier toutes ces inspirations avec la cuisine française aussi?
On entend... cuisine de rue, cuisine de la rue, street food. On a même, nous, hésité, pour le titre de cette émission, à dire street food ou cuisine de rue. Attention, street food, ça n'est pas un terme français, quoique c'est peut-être entré dans le dictionnaire ou ça va peut-être l'être. Marcel Ratafiar, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas exactement la même chose, en fait, street food
alors,
et
moi,
cuisine
je sais...
de rue.
Oui, alors, je sais pas ce que vous entendez, mais moi, par exemple, je crois que quand on dit cuisine de rue, on ne pense pas aux mêmes recettes que quand on dit street food, où il y a un côté, effectivement, certainement venu d'Amérique ou d'Asie. Alors que cuisine de rue, c'est vrai qu'on entend, bah, par exemple, le pain bagnat ou des choses finalement plus peut-être artisanales, anciennes,
traditionnelles,
traditionnelles,
ouais.
Ouais, qui s'inscrivent dans l'histoire. Alors que la street food, comme c'est un phénomène, en tout cas en France, très récent, je crois qu'on entend quelque chose de plus contemporain.
phénomène très récent en France, mais phénomène très vieux dans le monde. Vous dites que ça existe depuis la nuit des temps. Les Romains raffolaient des thermopolia, des échoppes de rues pourvoyeuses de plats chauds. Et puis même dans le Paris de la Renaissance, Marcel Ratafia.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, les recettes n'étaient pas tout à fait pareilles. On mangeait des oublis, donc des espèces de gaufres, des rissoles, des
talmouses.
Des talmouses. Alors c'est drôle parce que...
Les ancêtres du friand.
Oui, et alors Dumas, quand il a découvert la pizza à Naples, il a dit « c'est une sorte de talmouse ». Donc c'est vrai qu'on a oublié ce mot d'origine arabe qu'est la talmouse et qu'on appelait aussi casse-dents, parce qu'effectivement, parfois, c'était tellement dur qu'on s'est cassé un petit peu les dents. Mais c'est vrai que de là vient, je pense, la tradition de tout ce qui est en forme de pâté, puisque la pâte, au départ, ne se mangeait pas, mais c'était vraiment un outil de conservation pour pouvoir, justement, par exemple, être vendu dans la rue. Les pâtés chauds, c'était de la viande avec de la pâte autour. Et puis, bon, finalement, on s'est rendu compte que c'était pas mal que ce soit aussi comestible. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a tellement plus de choix. Parce que quand on pense à tous les mélanges culturels que la France a connus, ces 60, 70 dernières années, c'est aussi ce qui fait la richesse de la cuisine de rue actuelle.
Vous avez intitulé votre livre « Culture street food ». Parce que c'est une culture, la street food ?
Ah oui, c'est une culture. C'est une culture parce que je pense que Maury, par exemple, en est tout à fait le fruit. Parce que oui. Maury est jeune et il a connu à la fois le rêve de l'étoilé et en même temps cette cuisine du ventre.
Ouais, cette cuisine du ventre, et moi je trouve qu'elle est... Ouais, moi j'ai toujours grandi
cuisine
avec...
Cuisine du ventre, vous dites ?
Ouais, pour moi cette cuisine gastronomique qu'on fait, moi en tant que chef gastronomique, elle est plus intellectualisée, on va aller chercher des recettes, on va chercher du sens à chaque fois dans chaque recette, ou raconter une histoire, alors que cette cuisine, moi de street food, je trouve que c'est vraiment la cuisine instinctive, cuisine du ventre, vraiment on passe devant les shops dans la rue et... appelé quelque part par une odeur, par un goût, par juste le visuel. Et finalement, c'est notre ventre qui va nous guider vers cette cuisine. Et elle sert juste à satisfaire un besoin physique et le besoin du ventre. Et après, bon, petit à petit, on s'est rendu compte que si c'était bon, c'était encore mieux, quoi. Mais pour moi, répond d'abord à ce besoin-là du ventre.
Et pourtant, c'est une cuisine... C'est pas qu'elle est méconnue, c'est qu'elle a une mauvaise image, Marcel Ratafia, cette cuisine de rue. Elle est souvent associée à la junk food. Malbouffe en français, à la fast food. Alors il y a pas de traduction de malbouffe, de je sais pas,
manger
la fast
rapide.
bouffe rapide. Voilà. Est-ce que c'est à tort cette mauvaise image ?
Pas totalement. Il est vrai que ce que Maury disait, c'est que aujourd'hui on a une recherche de qualité dans la cuisine de rue, dans la street food, qui est un peu nouvelle, parce que pendant longtemps c'était associé à de mauvais produits, enfin ou des produits bas de gamme. Pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi cette arrivée, disons, d'Amérique, puisque le hot dog, le burger, finalement, avant les années 60-70, on n'entendait pas vraiment parler, et c'est arrivé d'un coup, et je pense que c'était arrivé associé à une image un peu capitaliste, mondialiste, qui a fortement déplu, et qui a caché la forêt, qui était cette immense culture mondiale, du Maghreb à l'Asie du Sud, en passant par l'Afrique de l'Ouest et par l'Amérique latine, on a tellement de recettes qui je pense, constituent une encyclopédie.
Une encyclopédie, c'est le livre qu'on a sous les yeux, nous, pour l'instant, et que j'espère nos auditeurs et nos auditrices auront ensuite, eux, sous les yeux. Maurice Sacco.
Moi, je dirais que c'est le fast-food. Qui a donné mauvaise image, quoi, parce que finalement ces fast food, ils sont appuyés sur des recettes de street food, désolé, mais du burger et du hot dog, et c'était surtout le levier économique qui primait. Donc comment on fait baisser les prix en utilisant des mauvais produits? Et je pense qu'en France, c'est peut-être un des rares pays où il y a pas trop cette culture de manger dehors, alors que dans le reste du monde, les gens mangent dehors, et finalement cette cuisine de rue n'a jamais été associé réellement au fast-food. Ils ont su faire la différence entre les deux. Mais en France, qui est le pays du restaurant, on mange bien quand on mange assis et quand on mange avec des couverts. Et donc, manger debout avec les mains et quelque chose de pas cher, tout de suite, c'est différent de la chose qu'on nous a montré comme être bien assis, bien installé et finalement un bon repas, quoi. Donc, je pense que même d'un point de vue idéologique, c'était déjà opposé à comment un Français conçoit un bon repas.
Ben justement, ça me permet de vous poser la question, Marcel Ratafia, des critères de définition de la cuisine de rue. Est-ce que nécessairement, une cuisine de rue, c'est une cuisine qu'on mange dans la rue, debout, dehors, ou pas nécessairement?
Alors, pas en France.
Ou plus nécessairement, comme le dit Maury.
Il y a une histoire très intéressante du kebab, où on voit que la France est le seul pays où les restaurants où on vend des kebabs ont des tables et des chaises. Pourquoi ? Parce qu'on est en France. Effectivement, je pense que quand on pense cuisine de rue, on pense camion, kiosque, petite échoppe, mais pas seulement. Parce que il faut reconnaître que maintenant, on a ce phénomène qui consiste à rassembler des restaurants où on peut manger sur le pouce et parfois ce qu'on appelle des food court, hein. Désolé pour le anglicisme.
Décidément. On est recouvert.
Décidément.
On le sait.
Oui.
On est envahi.
Ça, c'est quelque chose, par exemple, alors qui est un peu décentré chez nous, mais par exemple, quand on va à Singapour, c'est vraiment culturel, c'est-à-dire que ce sont des endroits où on mange effectivement sur le pouce et parfois on peut même asseoir un coin de fesse sur un tabouret, mais c'est pas trop le principe de rester longtemps, d'attendre le pain, le vin, tout ça, c'est manger rapidement.
Alors, deuxième critère, manger rapidement, après pas forcément être assis, hein, debout en tout cas, manger rapidement. Est-ce que l'accessibilité, le prix abordable, pour le dire comme ça, Maurice Sacco, ça compte aussi dans les critères?
Ça compte parce que c'est une cuisine finalement du quotidien. Et si on dépense quotidiennement une somme pour s'offrir un repas, on n'a pas envie que ça soit trop élevé. C'est vrai que la partie économique est importante dans cette cuisine de rue, et la notion de temps aussi, parce que ces recettes, elles ont été optimisées pour être faites rapidement, consommées rapidement, pour pouvoir continuer ses activités dans la journée, quoi. C'est vrai que les deux regroupés font aussi partie, pour moi, de l'ADN de ces cuisines-là.
Cuisine de l'instant, cuisine du quotidien, fraîcheur nécessairement, des produits. Et délicieux maintenant, en fait.
Cuisson minute. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est en général des recettes qui vieillissent pas bien. C'est-à-dire, c'est pas comme un bourguignon qu'on réchauffe le lendemain, il sera encore meilleur. Vous voyez bien, un hot dog, deux heures après,
ouais. Il vaut mieux le manger sur le moment.
C'est un peu moins bien. Et ça, c'est aussi une gageure de dans cette cuisine-là, parce que c'est des choses qu'on va pas forcément. Là, j'ai mis les recettes, mais c'est pas forcément facile, parce que.
L'idée d'une simplicité, mais ça, c'est encore une idée reçue.
Oui, parce que par exemple, quand on pense à un kebab, mine de rien, découper la viande, la faire mariner, la monter sur une broche, si on fait ça bien, faire le pain soi-même, etc., ça prend du temps.
Monsieur le chef, Maurice Sacco.
Je suis totalement d'accord. Il y a la notion d'envoi rapide, donc la nourriture doit être servie rapidement, mais il y a un travail préparatoire très souvent qui, lui, est assez énorme, quoi. De cuire, par exemple, le kebab, c'est un super exemple, parce que finalement, monter sa broche, faire mariner, les temps de marinade aussi sont hyper importants, que ça soit sur un poulet frit, que ça soit sur certaines recettes où on va avoir l'adobo, je crois qu'il est philippin, oui. Où le poulet marine hyper longtemps et il y a vraiment une idée de faire braiser le poulet. Finalement, c'est des recettes où il y a beaucoup de travail avant, mais par contre, on est servi en 5 minutes.
Alors vous avez choisi à Mossougo, Maurice Sacco, de proposer aux clients de s'asseoir. Donc on a des tables à l'intérieur, mais il y a aussi une fenêtre takeaway, à emporter. Et puis une troisième possibilité en livraison.
Oui.
Donc c'est directement ouvert sur la rue, donc on a toutes ces possibilités à Mossougo. Vous avez fait votre voyage immobile, peut-être que vous avez beaucoup voyagé pour faire ce livre, Marcel Ratafia, mais c'est au final un voyage immobile. Quand je dis voyage, c'est que vous avez classé votre livre par aire géographique, et ce livre se lit comme un immense voyage à la découverte, alors de la poutine canadienne, de la karajé brésilien, c'est des beignets aux crevettes à base de haricots, du dosa ou de la dosa indienne, crêpes à base de riz et de lentilles, etc., etc. Ça veut dire que c'est partout, la culture de rue, elle est dans sur tous les continents, dans toutes les aires que vous avez pu explorer, on va le dire.
Et à partir du moment où on sort de chez soi et on ne peut pas rentrer à la maison pour déjeuner, ce qui est devenu la majorité au cours de l'ère industrielle du 19e siècle, il faut trouver des solutions pour effectivement manger sur le pouce, manger en quantité raisonnable. C'est-à-dire, il faut quand même que ça cale. C'est souvent des recettes, effectivement, alors... pas toujours légères, on va dire. Et c'est des recettes qui sont parfois complexes, parce que quand on pense à de simples sandwichs, entre guillemets, nous on a le jambon beurre qui est peut-être la pure expression du sandwich, mais dans un sandwich on peut mettre des sauces, des crudités, on peut mettre rajouter des condiments, comme on voit par exemple en Israël avec le sabir, où c'est quand même un petit monument de complexité.
Il y a beaucoup d'ingrédients, et puis surtout c'est vrai que ça peut monter à un niveau de complexité qui est assez haut finalement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la flexibilité qu'on peut y retrouver, quoi. C'est que chaque restaurant, chaque famille, chacun va avoir sa propre recette. Et des fois, il y en a certains, on va pouvoir inventer soi-même et choisir ses éléments, mais d'autres, là, c'est différentes recettes qui sont très fermées, mais qui vont être hyper complexes, quoi. Donc,
Alors, on est dans les idées reçues, hein, sur la culture de rue dans cette première partie des bonnes choses. Cuisine populaire, mais la plus méconnue. Il y a un autre paradoxe qui me semble intéressant avant de passer à quelques histoires de plats emblématiques de cette culture populaire. Et que vous relevez bien, Maurice Accot, dans votre préface. Nomade par essence, elle nous touche dans ce qu'on a de plus profond et de plus casanier. C'est-à-dire que c'est à la fois une cuisine qui est porteuse de très fortes identités culturelles, parce qu'on est dans des aires géographiques bien définies, avec de l'histoire, avec de la mémoire, et en même temps, cette culture de rue, elle ne s'embarrasse pas de frontières. Donc c'est un vrai paradoxe, ça aussi.
Ouais, je pense que c'est le paradoxe principal qu'on peut retrouver dans la street food, c'est que quelque part, c'est une cuisine qui est faite pour voyager, littéralement, donc ce qui fait que les recettes peuvent s'implanter n'importe où dans le monde, mais qui garde toute son identité. Donc peu importe si on place un restaurant de banh mi à New York, il sera quand même vietnamien, mais il sera à New York. Et donc parfois, on peut assister justement à des petits miracles où justement cette recette-là et cet ADN-là va venir fusionner avec celui de sa région d'adoption, et on va avoir finalement une nouvelle recette qui va naître. Et moi, je trouve ça génial.
Ça, c'est l'histoire, par exemple, de la Calentica, dont vous nous avez offert la recette. Merci pour le site internet. Marcel Ratafia, la Calentica, c'est ce sandwich algérien, garni d'une sorte de flan à la farine de pois chiche, cumin et harissa, qui a essaimé un peu partout.
Oui, alors, pour moi, c'est l'avenir de l'humanité, ce plat-là.
Parce carrément.
Oui, il y a des pois chiches, et finalement, quand on n'a plus envie de mousse et qu'on a envie d'en mettre dans un sandwich quand même, il y a la Calentica, qui est très intéressante parce que son nom est d'origine espagnole, c'est pas pour rien. C'est une recette qui s'est développée à Oran et à Alger. Et à Oran, en 1703, il y a eu un siège par des marins espagnols qui, d'après la légende, n'avaient rien d'autre sous la main que de la semoule de pois chiche et de l'huile d'olive et un peu de cumin, et qu'ils ont inventé cette recette. Et en fait, si on observe bien, à Gibraltar, il y a un culte de la Calentica qui s'est un peu perdu par rapport à l'Algérie, où c'est vraiment très très courant de la retrouver, où on continue à avoir cette recette traditionnelle. Et je me disais, c'est quand même bizarre, il y a de pois chiche à l'époque ni en Algérie, ni à Gibraltar. Donc comment ça se fait? Et donc, j'ai découvert qu'en fait, il y avait une colonie d'Italiens qui venait de Ligurie, du port de Gaète, qui avait l'habitude de faire la farinata, donc cette recette qui a inspiré la soca, les panis marseillais, et qui s'est installée en nombre juste avant 1703 à Gibraltar.
Un exemple de ce tour du monde, ou presque, dans tous les cas, de cette histoire très longue qu'on peut retrouver dans ce formidable ouvrage qui est le vôtre, Marcel Ratafia, Culture Street Food, et qui est le sujet de notre émission ce midi.
Ça me permet de bien manger, équilibrer un peu de viande, de la salade.
Ouais, ça n'a rien à voir avec le fast-food, hein. C'est pas les cochonneries qu'on mange dans du pain comme ça. Au moins, on sait ce qu'on mange et ça, c'est autre chose, c'est peut-être autre chose.
C'est super bon, moi j'adore le mouton, voilà.
Pourquoi j'aime ça? Ben moi, je connais ça depuis très longtemps. J'ai vécu en Turquie de 1942 à 1958. Alors quand j'étais enfant, ben on mangeait de ça, c'est pas nouveau. Alors finalement, aujourd'hui on vend des boulettes dans des morceaux de pain, dans des fast-foods, McDonald's et autres, mais les Grecs, les Turcs, ils mangent des choses comme ça, c'est de la viande fraîche par ailleurs.
Vous disiez, bah oui, c'est assez rigolo, vous disiez, Maurice Accot, que la culture de rue permet de se sentir à la maison tout en étant sur un bout de trottoir. Pas de culture de rue, pas de street food sans kebab.
Ah non, pas de street food, en tout cas en France, sans kebab. Je pense qu'on va dans un village au fin fond de la France, le seul street food, je pense, avant McDonald's, où on peut retrouver, c'est le kebab, quoi. Le et qu'on a kebabier. Une famille. C'est ça, le maître kebabier. On aura une famille turque installée là depuis 50 ans et qui est le kebab avec tous les jeunes du village qui sont là, quoi. Et je pense que c'est limite, ça devient limite culturel d'avoir un kebab dans sa ville ou son village.
Alors, il y a énormément d'histoires, de plats emblématiques, dont celle du kebab dans votre ouvrage, Marcel Aratafia. Absolument. Il y en a une que vous aimez bien, c'est celle du hot dog.
Oui, le hot dog, c'est amusant parce que, évidemment, des sandwichs aux saucisses, il y en a dans le monde entier. Il y a le completo chilien, il y a le choripan argentin, il y a la galette saucisse qu'on peut classer entre crêpe et sandwich. Et le hot dog, en fait, évidemment, ça vient d'Allemagne. Mais à l'origine, c'était certainement une astuce pour retrouver un peu, pour tous ces immigrés allemands qui sont arrivés en masse à partir des années 1850 à New York et en Pennsylvanie, le goût de la choucroute. Parce qu'au départ, dans le hot dog, c'était comment on peut manger une choucroute sur le pouce ? Ben, on le met dans du pain. Et en fait, l'histoire est géniale parce que elle va gagner New York et en particulier Brooklyn, Coney Island. Coney Island qui s'est développé comme une espèce d'immense fête foraine à l'année où on mange des hot dogs.
Vous saviez tout ça, Maurice Sacco ?
Non, ça je savais pas du tout.
Voilà. Des choses qu'on apprend dans le livre. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses à Marcel Aratafia concernant ce que vous faites notamment à Mossougo, c'est-à-dire le poulet frit. Alors il est question du poulet frit dans le livre de Marcel Aratafia, absolument. Mais parlez-nous de ce poulet frit. Pourquoi c'est le poulet frit que vous avez choisi de mettre en scène, en lumière, en valeur dans Mossougo, qui est donc un temple de culture de rue dédié au poulet frit ?
Bah, moi, le poulet frit, c'était un choix hyper évident pour moi parce que dans tous ces plats cuisine de rue, c'est le plat qui me parle le plus. Et donc, j'avais envie de faire mon poulet frit parce que je trouvais justement qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de temps. Maintenant, beaucoup plus. Hein. En 2 ans, il y a une explosion. C'est assez fou, mais il n'y avait pas tant que ça d'enseignes qui proposaient du poulet frit entre, on va dire, le fast-food et quelque chose où c'est un restaurant où on va proposer du poulet frit, mais entre autres. Et donc, je me suis dit, bah, je vais me lancer et j'ai envie de faire un poulet frit, en tout cas que j'aurais envie de manger régulièrement.
Avec une panure extra légère.
Oui.
Relevée aux épices cajun.
Ouais, c'est, et bah, pour moi, le poulet frit, c'est 3 paramètres. C'est hyper simple. Hein. C'est vraiment le poulet, la marinade et la chapelure. Donc je me suis dit, bah, je vais m'inspirer des meilleurs poulets frits, en tout cas de ce que je préfère dans chaque recette. Et donc on marine un peu comme aux États-Unis, donc avec les épices cajun, un petit peu de buttermilk, et je trouve que c'est vraiment une des meilleures.
Du buttermilk ?
Ah, du lait ribo, désolé, hein, du lait fermenté ou du petit lait.
Donne ce côté moelleux.
Ouais, pour donner le côté moelleux, c'est le yaourt, c'est beaucoup utilisé aussi en cuisine indienne, permet de faire rentrer la marinade plus facilement. La chapelure, qui est inspiré du katsu japonais. Donc on trouve plutôt avec du porc le tonkatsu, mais on a le tori aussi, donc le poulet. Et pour finir, la sauce, bah, on a travaillé une sauce qui est un peu entre la Corée et le Japon, qui s'inspire de la sauce bulldog japonaise, qui est une sauce acide avec des fruits. Et on est venu rajouter aussi le côté pimenté qu'on a dans la cuisine coréenne, parce que moi j'adore le piment. Et bah, à la fin, ça donne ce poulet frit Mossougo qui a plein d'inspiration partout.
Que vous glissez dans un moelleux pain bretzel ou dans un pain bun doré. Oui. On peut l'accompagner de frites, de patates douces, de pommes de terre grenaille, d'une sucrine braisée. Et puis d'un bissap maison ou bien d'un jus de gingembre. Et puis un petit nouveau, quand même un autre totem de la street food importée de l'Amérique, là encore, hein, on est envahi, on le savait. Oui. Chicken et waffle, autrement dit, poulet et gaufre. Et vous avez ajouté du sirop d'érable. Donc là, on est dans du sucré salé.
Ouais, ce plat-là, c'est incroyable parce que pour un Français, ça n'a aucun sens. C'est du poulet avec une gaufre et du sirop d'érable. On croyait qu'on a choisi des ingrédients comme ça au hasard. Et moi, je l'ai découvert l'année dernière quand j'étais à New York. Et c'est un totem new-yorkais pour la cuisine soul food. Et moi, la première fois que j'ai mangé, il y avait un côté hyper gargantuesque. C'est un plat qui est énorme, la gaufre est énorme, le poulet aussi. Et c'est nappé de sirop d'érable et c'est hyper sucré. Et donc, ça m'amusait de me dire comment j'arriverais à faire manger ce chicken and waffle, mais à un public français avec plus de légèreté, des choses quand même moins sucrées. Et c'était un beau challenge pour moi de réinventer cette recette de poulet frit, puisque pour moi, Mossougo a, en tout cas, destination à proposer plein de recettes de poulet frit, mais qu'on trouve dans le monde entier.
Et dans le monde entier, justement, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Amérique, et il y a justement ce voyage immobile que propose Marcel Aratafia, avec des destinations qui sont l'Éventine, on peut aller de Beyrouth à Tel Aviv, et c'est ce que nous propose, par exemple, un nouveau lieu de street food, de culture de rue à Paris, vers Pigalle, c'est Nissi. Nina Metoudi, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous, la chef de Nissi. Nissi, c'est la contraction de vos deux prénoms, qui ne s'inventent pas, hein, Nina et Simone. Bon, et vous proposez, vous, de la street food rétro-léventine. C'est quoi cette street food rétro-léventine à Nissi?
Alors déjà, moi, je fais des sandwichs avec le pain challah, qui est un pain brioché issu de la cuisine juive. Je suis d'origine, du coup, juive séfarade. Et j'ai voulu, à travers mes sandwichs, retranscrire la cuisine avec laquelle j'ai grandi, qui est du coup de la cuisine juive maghrébine, et également tous mes voyages dans les pays du Levant, et notamment en Israël, où là, c'est un vrai mix de la cuisine juive en général.
On trouve des schnitzels de poulet,
exactement,
aubergines frites, coleslaw, makbouka, tahini, pickles de cornichons. On trouve des sabiches. Alors là, je vais me tourner vers Marcel Ratafia, parce que vous faites l'histoire du sabiche.
Oui, alors qu'on dit sabir, en sabir, réalité,
absolument,
comme le langage, qui vient...
Très important les mots, très important les
langages. Non, parce que monsieur, parfois, on ne connaît pas exactement la
prononciation. Ben voilà, vous voyez, je ne savais pas la prononciation.
Et on en mange à Paris depuis peu, notamment dans un endroit qui s'appelle la sabicherie.
Et ah bah voyez, on ne dit pas la sabicherie, bon, pardon.
Mais on dit... Oui, voilà, exactement. Bah, nous, on va dire sabiche, parce que... Et sabiche, effectivement, dedans, parce que c'est une recette qui est née, vraiment, à Tel Aviv, avec de l'aubergine frites avec un condiment très pimenté qui vient du Yémen, avec beaucoup d'ingrédients comme ça qui ont l'air, comme dit Maury, de ne pas forcément aller ensemble, du chou coupé, et en même temps l'ensemble est génial parce que c'est effectivement le Levant, c'est un coin où on arrive du Yémen, on arrive de Turquie, on arrive de Syrie, on arrive peut-être d'en face de la Méditerranée, et tout se mélange, comme avec le schnitzel, qui est quand même venu de Vienne. Avec les Ashkénazes, qui est venu de Vienne en Israël.
Fishbowl également, boulette de poisson, Nina Metoudi.
C'est ça, et en fait, ces boulettes de poisson...
à la sauce marocaine ancestrale.
Exactement.
Donc vous nous faites, vous aussi, voyager, hein.
Bah, en fait, c'est les boulettes de ma mère qui, du coup, est née au Maroc et a grandi là-bas. Et cette sauce est vraiment emblématique. Et j'ai voulu le ramener dans un sandwich parce qu'en fait, ce sont des vrais plats cuisinés qui fonctionnent très bien aussi en sandwich. Et j'ai voulu faire découvrir en fait ces plats à travers la street food.
Ben merci, ça s'appelle Nissi et c'est rue Pierre Fontaine à Paris. Dans le 9e, on a déjà au moins deux adresses, en tous les cas à Paris, celle de Nina Metoudi et celle de Morisako Mosugo, qui est notamment deux rues des Jeuneurs à Paris, oui, dans le 2e, mais aussi aux Galeries Lafayette Gourmet.
Oui, et dans le 14e, rue Raymond Losserand, tout près de l'autre restaurant.
Bon, ça c'est à Paris, mais après on voyage donc beaucoup dans le culture street food de Marcel Ratafia, qui donne non seulement un paquet d'adresses, mais de recettes et d'histoires. C'est un livre formidable, à glisser sous le sapin, c'est l'époque, c'est le moment. Un livre édité chez Marabout. Un très grand merci à vous trois, Nina Metoudi, Morisako et Marcel Ratafia, d'être venus ce midi dans Les Bonnes Choses. Les informations, les adresses, les références, la recette de la kalentika algérienne sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France avec Siam Boutata à la documentation, avec Camille Matti à la réalisation. Et aujourd'hui à la prise de son, Marie-Claire Oumabadi. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.